franceinter.fr.
Pop, etc. Avec Valley sur France Inter.
On a beaucoup parlé de la French Touch à partir du premier album de Daft Punk en 1996, mais cette touche française en matière de musique électronique est bien plus ancienne. Elle a ses racines dans les années 1970. Nos musiciens français ont su apprivoiser très tôt les nouvelles machines et voir le futur s'ouvrir à eux. C'est à l'occasion de la sortie de la compilation Cosmic Machine chez Beacoz que l'on parle de la musique électronique cosmique et avant-gardiste de 1970 à 1980. Pour ce retour vers le futur, mes invités sont Uncle O et le musicien Dominique Perrier. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Valérie. Bonsoir.
Comment allez-vous?
Très bien.
Vous avez l'air guéri, très, très heureux.
Très content d'être avec toi, surtout.
Ah, alors, Uncle O, tu es graphiste, directeur artistique, musicien, DJ et pas que. On se souvient de votre collection Shaolin Soul, sortie chez Delabel, pour qui vous avez aussi signé le logo, c'était en 1998 et 2000.
Oui, et d'ailleurs, ça va revoir le jour.
Ah, bah c'est super.
Oui, très prochainement, volume 1 et 2 et 3.
Aïe, 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 bon, tout arrive dans Pop, etc., actualité musicale, etc. Et puis, Dominique Perrier, vous êtes membre et cofondateur du groupe Space Art et collaborateur de longue date de Jean-Michel Jarre.
Ouais.
Comment allez-vous?
Très bien. Très
Je suis ravie de vous avoir. Alors, tout à l'heure, il y a un autre précurseur dans la musique électronique, Bernard Fèvre, qui sera au téléphone avec nous. Le premier véritable carton de ces artistes cosmiques est Magic Fly du groupe Space, mené par Didier Marioni, vendu à des millions d'exemplaires. Il est plus que jamais dans l'actualité musicale, plus de 30 ans après sa sortie. Space fait figure d'un des premiers groupes électroniques du monde. Et pour la petite histoire, les membres portaient des casques en 1970, comme le feront des Daft Punk 20 ans plus tard. Space, Magic Fly, dont Pop, etc. Magic Fly du groupe Space, Tom Pop, etc. Énorme star en Russie. Ils ont vendu des millions, millions de...
Mais ils sont toujours très connus.
C'est fou.
Ils font des concerts presque tous les ans là-bas.
C'est dingue. C'est un extrait de la compilation Cosmic Machine qui sort lundi chez Beacoz. Elle a été compilée par mon invité Uncle O. Avec nous ce soir, bien sûr, Tom Pop, etc. Avec le musicien Dominique Perrier du groupe Space Art. Space Art ou Space Art?
Space Art.
Voilà, j'en étais sûre qu'il fallait prononcer le T, mais je veux faire comme une bonne américaine. Alors, c'est incroyable d'entendre cette musique, ce morceau, ces sons avec nos oreilles de 2013. Ils sont si familiers, mais ils ont l'air un peu désuets quand même. Dominique Perrier.
Oui, oui, c'est un petit peu désuet, c'est l'époque, c'est comme ça.
Alors, il faut mettre en avant, je pense, Olivier, le compositeur Didier Marouani, mais aussi les machines, parce que c'est grâce aux machines que ce mouvement existe.
Ah ben, s'il n'y a pas de machines, il n'y a pas de musique électronique.
Exactement, alors...
Oui. Enfin, ceci dit, si tu demandes à Jean-Michel Jarre, il va te parler de Pierre Schaeffer, qui faisait... des sons venus d'ailleurs, mais avec des bandes magnétiques, avec des
ordinateurs,
avec des, enfin les premiers ordinateurs à l'époque, ça existait.
Ils doivent être dans les pièces énormes d'ailleurs, ces ordinateurs à l'époque, Dominique Perrier. Oui, parce que on se souvient très bien de Pierre Henry aussi, Messe pour le temps présent, je crois, en association avec Pierre Schaeffer.
Totalement.
Alors, ces machines de Dominique Perrier, bon, ça c'était en 77 quand vous avez commencé la musique. Elles avaient quelle taille? Parce que j'essaie de m'imaginer.
À peu près comme ça.
C'est-à-dire, la radio, on a besoin d'images.
Comme un petit orgue.
Comme un orgue, comme les synthés qu'on a aujourd'hui.
70 cm, oui, de long.
D'accord. Ouais. Et elles étaient chères? Vous avez accès facilement à ces machines?
C'était très cher, oui. Elles étaient trois fois plus chères.
Parce que déjà, elles étaient importées des États-Unis.
Ouais.
La plupart du temps, c'était, qu'est-ce que tu, je ne sais pas ce que tu utilisais, mais c'était des Moog.
Arpodissés, Moog. Ouais. Et quand ils oubliaient les sons. Ils oubliaient les sons.
C'est-à-dire, ils oubliaient les sons et on ne pouvait pas les enregistrer. Il fallait les faire en direct, comme un instrument, je veux dire.
Ouais.
C'est pour ça qu'en fait, il y avait une vraie création. Ce n'était pas comme aujourd'hui, on appuie sur un bouton et ça fait le son qu'on veut.
C'est dingue.
Il fallait le chercher soi-même.
Oui, c'est ça. Une espèce de pâte à modeler de son.
C'est fou. Alors, on a parlé de Moog, l'inventeur de cette machine qui est devenue la petite machine. Bon, peut-être c'était cette
taille-là.
Magique. C'était Robert Moog au début des années 60.
Oui, je crois qu'il a commencé même avant. En fait, je pense que Moog a réussi à populariser son instrument avec Walter Carlos, qui avait fait la musique de...
Switched on Back.
Et bien surtout, il a fait les bandes originales de Kubrick.
Clockwork Orange,
Shining, Tron. Oui. Et en fait, il lui avait construit, c'est juste pour lui, ses propres machines.
Oui, c'était le premier. Hein.
C'est un des premiers à vulgariser.
Oui.
Il faisait de la musique classique, il reprenait des classiques de Beethoven ou de Bach avec ses machines.
On va écouter un extrait de Switched on Back, ce qui est cartonné en 1969. C'était Walter qui est devenu Wendy Carlos.
Ouais.
Troisième mouvement de la concerto brandebourgeoise en sol majeur de Bach. C'est un extrait de Switched on Back sorti en 1969. Ça a fait un effet d'une bombe dans l'industrie musicale. Mais mon père a acheté cet album.
Mais je vais te dire une chose, c'est que quand tu vas dans les vide-greniers en France, tu trouves des Walter Carlos absolument partout. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a le Switched on Back numéro 2. Il est dans l'espace, en cosmonaute, habillé en Louis XIV, avec ses Moog qui volent dans l'espace.
Dis donc, si on trouve à Walter Carlos, c'est quand même collecteur aussi, parce que comme il
maintenant les gens commencent à savoir.
Donc, on entend les claviers, et le Moog était le premier, je pense, qui avait un clavier aussi dans ses instruments.
Oui.
Dominique Perrier.
C'était un mur droit.
Un bahut.
Un bahut avec un petit clavier. Et puis des connecteurs partout, des jacks, voilà.
Alors, il y avait le mini Moog, c'est ça qui a permis de faire des home studios. Et puis, quand on parle de musique électronique, on pense au home studio. Alors, le pionnier absolu est François de Roubaix. Il installe dès le début des années 70 dans son appartement bourgeois dans la rue de Courcelles, ce qui est monnaie courante aujourd'hui pour les musiciens, un studio à la maison. On écoute une de ses compositions, s'appelle Survol, extrait des Cosmic Machines, dont on parle ce soir dans Pop, etc. François de Roubaix, fabuleux compositeur de musique de film, disparu trop tôt à 36 ans. Oui. Survol est une musique, un morceau refusé par le commandant Cousteau pour qui il travaillait, pour un documentaire sur l'Antarctique. Dis le mot.
L'Antarctique.
Alors, trop avant-gardiste pour le commandant Cousteau.
Totalement. Oui. Totalement. Il n'a pas compris.
Il était sous l'eau, ses oreilles étaient pleines de... Mais je comprends, parce que 74, donc c'était peut-être pour les oreilles d'un commandant Cousteau.
Mais j'ai eu la même question avec Jean-Michel Jarre il n'y a pas longtemps, où je lui ai dit comment tu as réussi en 1973 à faire la musique du film Les Granges Brûlées avec Simone Signoret et Alain Delon, une musique qui n'a absolument rien à voir avec le film. Et enfin, il m'a raconté toute l'histoire, je ne vais pas la raconter à nouveau. Oui. Mais c'était quand même extrêmement avant-gardiste, précurseur et même osé. Et là, à mon avis, pareil pour François de Roubaix.
Alors, d'après les notes de votre livret, de la compilation Cosmic Machine, le premier tube de musique électronique était Popcorn.
De Hot Butter.
Du groupe Hot Butter. On va l'écouter. Hot Butter Popcorn en 1972, incroyable. Alors, c'était un groupe français aussi, ça?
Non, c'était un Américain, c'était, Peter Kingsley, qui a en fait travaillé avec Jean-Jacques Perret, qui est sur la compile. En fait, Jean-Jacques Perret, après, est parti aux États-Unis et ils ont travaillé ensemble. Et en fait, je crois qu'il avait écrit le morceau en 69, mais qu'il est sorti qu'en 72. Ça a été un tube absolument mondial, et particulièrement en France, et où on a eu, je ne sais pas combien de milliers, je crois qu'il y a 800 versions de ce morceau.
C'est incroyable parce que même Jean-Michel Jarre
a fait sa version.
On va passer dans quelques instants le phase B de ce 45 tours. Mais Dominique Perrier, vous avez travaillé avec Jean-Michel Jarre.
Oui, oui.
C'est un des plus gros vendeurs quand même de musique électronique en France.
C'est
incroyable. Comment vous l'avez rencontré en travaillant avec Christophe?
Oui, au studio Ferber.
Vous travaillez sur Les Paradis Perdus.
Oui, et Jarre, il faisait des paroles.
Exactement, les gens disent pas assez souvent, on pense toujours que c'est la musique de Jarre, en fait non, la
musique
de Christophe. Et vous avez joué les claviers sur cet album.
Oui, oui.
C'était les claviers classiques ?
Oui, le piano, il y avait un petit éminent, un espèce d'orgue, et puis un petit synthé, comme ça. Et puis ce petit synthé, c'était un des premiers, et je l'ai gardé, Christophe me l'a donné.
C'est vrai ?
C'est avec ça que j'ai fait Space Art.
Bon, on va...
Ça a duré 2-3 ans au studio Ferber. On dormait là-bas, c'était infernal. Hein.
C'était vraiment un laboratoire.
Ouais. C'était une époque.
Alors, on va écouter juste le futur Golden Boy de la musique électronique avec la phase B de ce 45 tours Popcorn. Ça s'appelle Blackbird et c'est un extrait de Cosmic Machine. Jean-Michel Jarre, Blackbird, c'était en 1972.
Pop, etc. Avec Valley. Sur France Inter.
On parle de la compilation Cosmic Machine, destinée de musique d'avant-garde française de 1970 à 1980 avec le graphiste et compileur et DJ Uncle O et le musicien Dominique Perrier. Uncle O, tu as dit quelque chose de vraiment, c'est ça, quand on écoute ce morceau de Jean-Michel Jarre, on imagine un rappeur rappé dessus.
Mais totalement, c'est le tempo, il y a la batterie qui est là derrière. Je trouve que c'est très cosmique, mais en même temps, ça rappelle aussi les films d'horreur italiens, des gobelins, tu sais, les soundtracks comme ça. Enfin, oui, parfait.
Alors, quel était le génie de Jarre? Pourquoi ça a marché si fort pour lui?
Oh, alors ça,
Dominique,
je sais pas si moi je peux
c'est
répondre.
Vrai, pourquoi lui?
Je sais pas.
Et pas toi. Pourquoi lui et pas toi?
Parce que vous avez suivi, après vous êtes devenu ce clavériste à partir de 1981, je pense.
Oui. J'ai sorti Spessart avant lui.
Ah oui, parce que c'était en 77, justement. Alors,
on se faisait la course au hit-parade.
C'est vrai? Oui. Alors vous avez enregistré le premier album de votre groupe Spessart avec le batteur Roger Rizzitelli au studio Ferber en 77. Oui. On en a parlé tout à l'heure. Est-ce que tous les studios de Paris étaient équipés de tous ces instruments? Comment ça se passait?
Non, ils n'étaient pas tous équipés. Le studio Ferber, c'est un studio qui est énorme. Énorme. Et alors, bon, il n'y avait pas beaucoup de synthés au début. Moi, j'avais un tout petit synthé. Il était au milieu de la cabine, comme ça. On faisait tout avec, c'était rigolo.
Et à cette époque-là, comment vous appreniez à utiliser? Est-ce que vous avez juste mis le doigt, commencé à expérimenter? Comment ça se passait?
C'est Christophe qui m'a appris.
C'est vrai?
Ouais. Lui, il faisait des métronomes pour chanter. Il réglait pendant des heures un métronome avec le petit synthé.
Ah.
Il était assis par terre, il réglait son son. Et puis après, il enregistrait la voix et je faisais le piano après. Et la voix, elle ne descendait jamais. Il était très fort.
Il est toujours très, très intéressé par ça, Christophe. Il adore. Est-ce que cette musique, à l'époque, était considérée comme savante ou est-ce que c'était juste trop avant-gardiste pour même y penser, appeler ça
Moi, j'étais un peu jeune, il va mieux demander ça à Dominique.
Dominique Perrier.
Est-ce que c'était savant?
Oui, comment on considérait cette musique à l'époque? Bon, on sait que le commandant Cousteau a dit « j'en veux pas », mais comment c'était?
C'était un petit peu comme un gadget, un petit peu comme vous la sentez aujourd'hui, quoi. C'est très naïf. Très naïf comme musique, parce que c'est normal, on essayait des jouets, quoi.
C'est des expérimentations, en fait.
Ouais.
Alors, vous utilisiez des effets sur les voix, le vocodeur, ouais. On entend un exemple sur le titre Love Machine, qui est sur la compil, justement, Cosmic Machine. Ça rappelle Furieuse, un groupe français. Écoutez, on va deviner pendant... Ce n'est pas Air, c'est Spessart. Et mon invité est Dominique Perrier. Alors, racontez-moi, est-ce que c'était un vocodeur?
Oui, un vocodeur. Oui.
Alors?
C'est drôle, hein. On chantait dedans.
Et c'était le Korg?
Non, je ne me rappelle plus la marque. C'était un truc rouge comme ça.
Ah non, ce n'est pas le Korg alors.
Et on branche le micro, le clavier, et puis la voix, elle prend le son du clavier en fait.
Oui, c'est-à-dire tu chantes en jouant les notes sur le clavier.
Alors on a chanté ça, et puis après la batterie, on l'a passée dans une boîte encore. Vous avez remarqué, il y a
des effets, oui.
Des effets. C'était l'Infernal Machine de Peter Dean.
Ah, je la connais pas celle-là. Ah si, de Peter Lynn,
ouais.
Qui a fait la Lindrum après.
Oui.
D'accord, oui, Lindrum.
Et tout ça, c'était nouveau de l'époque. Ces machines étaient tout neufs à cette époque-là.
Fin des années 70, il a commencé à y avoir toute une nouvelle série. Il y a eu la fameuse... La Lindrum et surtout la 808, la 808.
Oui, ah oui, 808. Kanye West qui a appelé un album après cette machine il y a quelques années.
C'est une machine qui est toujours utilisée aujourd'hui, etc. Et il y a une autre machine que je voulais mentionner, c'était un jouet. C'était Mattel qui avait sorti ça, Mattel qui faisait les jouets. Qui a sorti une machine après le succès des Bee Gees. Ils ont sorti le Bee Gees Rhythm Machine. Par exemple, le morceau de Kraftwerk, Pocket Calculator, est fait... Tous ces petits bruits-là sont faits avec cette petite boîte à rythme qui faisait synthé. Dark Day, tu vois, le groupe américain Dark Day, de No Wave, a utilisé aussi cette machine. Et c'était des jouets. Et en fait, a commencé à arriver des machines qui étaient un peu plus abordables. Mais bon, c'était plus considéré comme des jouets, mais quand même...
Alors, Spessart sort New Mastering en 1977 et Bingo, un tube, il s'appelle Onyx.
Oui.
On écoute en pop, etc.
«
Onyx du groupe Space Art dans Pop, etc. sur France Inter, ou peut-être dit Onyx pour que les Français comprennent. C'est Onyx du groupe Space Art dans Pop, etc. sur France Inter. Alors, il y a une autre figure précurseur dans la musique dite électronique, c'est Bernard Fèvre. Il est au téléphone ce soir. Bonsoir.
Bonsoir.
Comment allez-vous?
Ça va.
Vous êtes ému d'entendre Onyx et tous les autres titres de cette compilation Cosmic Machine?
Ouais, c'est amusant. En plus, j'ai connu Dominique Perrier quand il était avec Fugain.
Avec c'est Fugain? Est-ce que vous avez joué avec Fugain, Dominique Perrier? Absolument.
J'ai commencé comme ça.
Voilà. Okay. Alors, Bernard Fèvre, les nouvelles générations vous ont découvert au début des années 2000 grâce aux groupes comme Aphex Twin ou les Chemical Brothers qui vous ont samplé. Quelle oreille avez-vous sur la musique qu'on écoute ce soir? Est-ce que des fois vous replongez dans ces années-là, cette musique-là?
Oui, mais je trouve, par rapport à moi, ce que je voulais faire, je trouvais un peu trop naïf. Moi, je suis pas un garçon naïf, alors je voulais pas faire ça. Mais c'est pour ça, d'ailleurs, que ça a accroché les gens une trentaine d'années après, quoi.
Comment décrire, alors, ce que vous faisiez à cette époque?
Moi, ce que je voulais faire, c'était ressembler aux peintures de Dali.
OK.
C'est-à-dire que, pour moi, c'est l'image que la musique dégage qui m'importe. Mm-hmm. C'est pas les notes, ni les sons pour dégager des images. On en parlait l'autre fois avec Jean-Michel Jarre, chez Tsugi, et on a un peu la même attitude vis-à-vis de la musique. Les images sont très, très importantes. Toute l'influence d'imagerie qu'il y avait dans les années 60 était vachement importante. C'était tout ce qu'on imaginait sur l'avenir technologique qui n'est pas particulièrement arrivé, d'ailleurs, parce que les voitures ne volent toujours pas. Mais c'est ça qui nous intéressait beaucoup.
C'est vrai que quand on regarde, par exemple, on a écouté Space et tout ça, et on voit comme tout était vers l'espace. On pensait qu'effectivement, on allait vivre dans l'espace et exactement, les voitures allaient voler.
Bah, d'ailleurs, Dominique, Bernard, c'est Olivier, pardon.
Salut, Olivier.
T'as une pochette, t'as un disque qui s'appelle Cosmos 2043.
Exact. Hein.
Tu t'étais envolé déjà.
Oui, mais bon, on était dirigé vraiment vers l'avenir. On y croyait, quoi. On était des grands rêveurs, en réalité. Mais c'est ce qui fait notre charme.
Mais c'était le nouveau son aussi.
Oui, ben oui, mais ça participait, justement. Les sons arrivaient en même temps que ce qu'on avait envisagé de jouer, quoi, quelque part.
Ouais, c'est ce que je veux dire. Ça inspirait plutôt des choses abstraites.
Oui, mais grâce aux techniciens qui ont fabriqué ces machines, c'est eux qui nous ont donné la chance de pouvoir aller dans un autre monde que celui qui existait auparavant.
Voilà.
Après, c'était un changement de monde.
Alors, il y avait des noms, Polymorg, Minimoog, Arp Odyssey, Imminent. Est-ce que vous avez une machine de prédilection, Bernard Fèvre?
Moi, j'utilisais beaucoup, comme j'étais très pauvre à l'époque, j'utilisais beaucoup les instruments qu'on me prêtait. Alors, ça pouvait être un peu n'importe quoi. Et puis, pas tellement, en plus, pas beaucoup. J'ai souvent remarqué qu'avec quand on en prend beaucoup, qu'on essaye d'être très, très riche au niveau instrument, c'est pas terrible. Il faut mieux se limiter à 3-4 synthés maximum, ou boîte à rythme mélangée, quoi.
Alors, vous vous êtes inspiré du mouvement disco avec Black Devil Disco Club, parce qu'en 1977, c'était quand même Bee Gees d'un côté, et puis quand même Moroder avec I Feel Love de Donna Summer, plutôt européen.
Oui, j'ai eu un contact avec Moroder sur Facebook, il ne comprenait pas comment j'avais fait dans la même veine que lui, alors qu'on ne se connaissait pas, je ne le connaissais pas, je lui ai dit que c'était un courant dans l'air du temps qui nous a mis dans une voie qui était un peu similaire. Quoi, moi, je ne travaille pas de la même façon. Je lui ai expliqué comment j'avais travaillé et qu'il y avait quelque chose au centre, c'est-à-dire surtout au niveau du groove, qui était semblable, mais l'écriture au supérieur, non, ce n'est pas du tout la même.
Alors, on va écouter dans quelques instants This Is To Be, qui figure sur la compilation Music Machine. C'est un projet qui est sorti en 75. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce titre avant de l'écouter?
Ce titre, il est... Ma musique, c'est comme les rêves. Les rêves sont parfois acides, sont parfois noirs, sont parfois pleurants, sont parfois tragiques à la limite, mais ce ne sont que des rêves.
Moi, je voulais rajouter...
Et le lendemain, on se réveille et on est vivant.
Moi, je voulais rajouter un truc, c'est sur ce morceau. Au milieu du morceau, vers les 2 minutes, il y a un break. Je pense que si les rappeurs américains plutôt électro-funk et G-funk de la West Coast entendent ça, ils vont devenir fous. Au milieu du morceau, il y a un break qui est totalement pour des rappeurs.
Ouais, j'ai été étonné justement d'avoir des groupes américains de jeunes rappeurs qui avaient fait des trucs sur mes musiques sur YouTube. Étonnamment, j'étais surpris parce que je ne m'attendais pas à ça. De toute façon, moi, je suis surpris depuis 2004, hein, parce que j'ai découvert que j'existais à partir de ce moment-là. Donc, tout me surprend.
On est ravis et merci d'avoir téléphoné
ce soir.
Je voulais
simplement dire
Dites-moi.
Que j'ai un album qui sort le 28 octobre qui s'appelle Black Moon, White Sun.
Oh.
Et c'est encore du Bernard Febvre. À une sauce Black Devil, mais avec des petits virages.
Écoutez, on attend que vous nous envoyez ça. On va mettre les références sur notre site Pop, etc. Et merci mille fois d'avoir participé dans cette émission ce soir, Bernard Febvre.
Ok, maintenant, c'est moi qui vous remercie. Puis bise à Dominique.
Ouais, merci.
Le monde étrange de Bernard Febvre dans Pop, etc. Bernard Febvre, un des pères fondateurs de la musique électronique française, il était au téléphone avec nous il y a quelques minutes.
Pop, etc. Sur France Inter.
Nous allons le savoir maintenant dans 2 secondes. À vous, la Sofresse, il est 20h. Valéry Giscard d'Estaing, 50,9%. François Mitterrand, 49,1%. Scrutin donc très serré, mais avantage en métropole à M. Giscard d'Estaing.
Vous avez reconnu peut-être Rocket de Rocketman, sorti la même année que l'élection de Valéry Giscard d'Estaing en 1974. La compil Cosmic Machine couvre la décennie 1970 à 1980. La France se modernise. On a un jeune président de 48 ans. Le Centre Pompidou, cette étrange structure futuriste, est inauguré en 1977. Dans les films des Français des années 70, il n'y a pas un film sans une scène à l'aéroport d'Orly ou tournée devant ou dedans ou dans les immeubles de fond de scène du 15e, les lieux d'architecture contemporaine. Pourquoi toute cette imagerie? On a parlé un tout petit peu tout à l'heure avec Bernard Fèvre de l'espace, les costumes, même les groupes portés, presque les costumes d'astronautes.
Oui, mais il y avait le premier. C'était en quelle année le premier homme sur la Lune? C'était en 72.
69. Oui.
Ben voilà, on sortait juste de ça, ça y est, on rêvait de l'espace et c'était parti, quoi. Et c'est vrai que les machines et la musique, forcément, elles se greffaient là-dessus.
T'inspirait les machines.
Oui, et l'imagerie et tout ça, je pense à l'artwork même de cette compilation.
De Philippe Druyer, Philippe Druyer, la classe, quoi.
Dites-nous qui c'est.
Philippe Druyer, c'est un, je sais pas si on dit, oui, c'est un illustrateur de bande dessinée futuriste, science-fiction des années 70, mais qui est connu dans le monde entier. J'ai d'ailleurs vu sur l'INA, il y a un document incroyable de lui avec le créateur de Batman et de Silver Surfer en 1972 dans un studio américain sur l'émission de télé. Les trois en train de faire chacun leur truc. Enfin, en France, on avait des dessinateurs comme ça, comme Moebius, Philippe Casa, enfin, qui étaient déjà aussi branchés, espace, tous ces trucs-là. Puis après, plus tard, sont arrivés les films, genre La Guerre des Étoiles.
Exactement.
Battlestar Galactica.
Dominique Perrier, pour Spissard, avez-vous des costumes aussi?
Oui.
Dites-moi, comment vous étiez habillé?
En vulcanologue.
et où est-ce que vous donniez les concerts d'ailleurs? Dans quelle salle?
À Paris, mais des petites salles. Mm-hmm. Et là, on était en Allemagne avec Lily, ma violoniste.
Qui est là parce que vous avez aujourd'hui le Dominique Perrier Project. Vous avez sorti un album il y a un an.
Oui.
Ce qui s'appelle Tribute.
Oui.
Voilà.
Il y a Lily, il y a Michel Valli.
Pas moi.
Non, mais c'est Michel Valli.
Oui.
Et un batteur qui s'appelle Marc de Poncalec.
Donc vous continuez à faire la même musique.
Oui, oui, oui.
Avec les mêmes machines, parce que maintenant les...
Non,
les,
ça a évolué.
Ça a évolué, oui, les machines aujourd'hui.
Oui. Et puis on se sert un peu des vrais instruments, comme le violon. Et puis elle joue du clavier aussi.
Dites oui pour qu'on sache que vous
oui.
êtes
oui.
là. Merci. Alors, on va écouter un disque, on en parlera après, parce qu'on est frappé sur la compilation Cosmic Machine par le lien entre le passé et le présent. La preuve, vous êtes là encore. Et le titre Caramel de René Roussel, par exemple. Quelle date diriez-vous, chers auditeurs? On écoute et on en parle juste après. Extraordinaire Caramel de René Roussel, Uncle O. Ce titre, c'est de la house, c'est quoi?
Oui, c'est quelques années avant la house. Le mec, il savait pas, mais il avait. Enfin, on dit que la house était inventée par Manuel Gottsching, qui était dans Ashra Temple. Mais peut-être René Roussel.
Plutôt à Chicago. Mais pourquoi les Français excellent-ils en matière de musique électronique? Non, mais c'est vrai, Dominique Perrier, pourquoi?
Je ne sais pas. C'est peut-être pour les mélodies. Ils sont plus forts en mélodie. Par exemple, les Allemands, c'est moins mélodieux. Voilà, ils adorent la musique électronique française, les Allemands.
C'est vrai qu'il a raison, c'est une mélodie assez bonne mélodiste, ouais. Les Français.
Ouais. Les Allemands, c'est plus...
Mais c'est vrai qu'on reconnaît dans la musique électronique, c'est vrai que dès que c'est un truc français, on peut tout de suite dire. Ouais. Par contre, sur un truc allemand ou américain ou anglais, on n'est pas sûr. Mm-hmm. Mais un truc français, on reconnaît tout de suite. Il y a une patte.
C'est incroyable. Alors, vous êtes DJ Uncle O, entre autres. Vous mixez tout le temps ces titres-là, encore?
C'est-à-dire que je mélange des choses anciennes, des choses nouvelles, mais oui, bien sûr. Par exemple, le titre de René Roussel, ça, sans problème. Hein.
Ouais.
Il passe au milieu d'un titre de house.
Alors, un autre maître de la musique électronique française, vrai pionnier, c'est Jean-Jacques Perret. Alors, on met vers la fin de l'émission, mais le titre qu'on va écouter, il s'appelle EVA, ça sort en 1970. Qui était-il?
Moi, je ne le connais pas vraiment bien, mais en fait, il a émigré très vite aux États-Unis. C'est lui qui a travaillé avec Peter Kingsley, qui a fait le popcorn. Ils ont fait des musiques électroniques pour les enfants, un peu des trucs comme ça, au Moog. Et donc, voilà, ce morceau est très ancien, a été samplé, entre autres, par Gangstar.
Mm-hmm. Et Fatboy Slim.
Est-ce
que, Dominique Perrier, vous utilisez aussi bien les anciennes machines que les nouveaux?
Oui.
Nouvelles? Vous mélangez tout. Ok. On va écouter un extrait de l'album de Jean-Jacques Perret. C'est l'album, c'est le Moog Indigo. J'adore ça. C'était en 70. Ça s'appelle EVA. Jean-Jacques Perret dans Pop, etc. J'adore ce morceau, il est vraiment cheeky. Ça veut dire que c'est un peu insolent et on entend vraiment l'influence de la musique dite électro-acoustique à la Pierre-Henri. Il y a côté 60s, très
c'est le jerk.
Jerk. C'est fabuleux ce titre, Uncle O.
Ah, ben oui, mais moi je ne m'en lasse pas de ça. C'est-à-dire, en fait, quand il y a le mélange des deux, d'acoustique et d'électronique, je trouve que ça fonctionne encore mieux presque.
Et on a parlé de quelqu'un qui joue le clavier, Bernard Estardi.
Le baron,
pendant,
oui.
Vous le connaissiez,
oui,
Dominique Perrier.
Il avait un studio d'enregistrement à Paris.
Oui.
Et puis, il était très bricoleur, hein, il bricolait. Et il jouait bien de l'orgue, très très bien. Il accompagnait Nino Ferrer. Mm-hmm. Et après, il a fait de la prise de son.
Oui, il travaillait avec François Hardy, beaucoup de la chanson française.
On a quand même deux morceaux sur la compilation qui sont... Il y en a un qui l'a co-écrit et l'autre qui l'a écrit tout seul. Ouais. Mm-hmm. Et moi, de tout ce que les gens m'ont dit, c'est que c'était lui qui était l'un des premiers à avoir...
Les synthés.
Importé des synthés des États-Unis. Et quand il venait chez lui, c'était pareil, la cave au trésor de synthés. Il était fou de ça.
Alors, j'avais envie de juste passer un tout petit extrait du morceau de Jean-Jacques Perry qu'on vient d'entendre, remixé par le DJ anglais Fatboy Slim. Ça, c'était à l'an 2000 et aujourd'hui, il faut qu'on vienne dans nos jours. Aujourd'hui, il y a un autre groupe qui, parce que cette compilation Cosmic Machine sort sur le label Because, qui me fait penser à Justice, entre autres, parce qu'il y a beaucoup de groupes aujourd'hui qui sont absolument friands de toutes ces machines. On va dans le studio du groupe Air, ils ont tellement de ces machines partout. On collectionne aujourd'hui.
Vintage.
Vintage. Ce son qui était particulier, qu'on ne trouve pas aujourd'hui, peut-être, Dominique Perrier.
Mais non, parce que maintenant, les synthés sont devenus programmables, c'est-à-dire qu'ils gardent les sons. Et avant, il n'y avait jamais le même son, vous comprenez ? Ce qui fait qu'on ne retrouvait jamais le son. Et donc, c'était sans arrêt une course.
Alors, c'est là où j'ai envie de poser la question. Quand on voit ces groupes sur scène, parce que moi, je ne suis évidemment pas musicienne et je ne sais pas jouer les synthés, comment ça se passe ? On voit, s'ils jouent sur une machine vintage,
oui,
et on voit tourner les
oui,
potards,
oui,
et tout ça, est-ce qu'on les adapte aussi, du coup, à notre technologie d'aujourd'hui ? Ou est-ce que c'est qu'on crée la musique instantanément ?
Oui, enfin instantanément, non, parce que c'est quand même un instrument qui est un peu... Il faut faire le son, alors on est là avec un doigt, on cherche... Et souvent, moi, j'ai appris le piano, mais je l'ai désappris avec le synthé.
Oui, parce que vous avez une formation classique.
Ouais. Et avec le synthé, j'ai désappris, parce que j'étais avec un doigt, et je cherchais un son, alors avec l'autre doigt, avec l'autre main en règle...
Qui tourne le potard.
Oui, c'est assez marrant, quoi.
Et tous les musiciens font ça aujourd'hui. Je ne sais pas, Justice, on dit des fois que c'est des bandes qui tournent, mais ils sont en train de créer pendant qu'ils jouent. Je ne sais pas.
Tu veux dire en live ou...
En live, quand ils sont les rockstars sur scène et on les voit derrière la machine.
Après, chacun a un setup différent. Oui, Justice, oui, il joue quand même. Il joue quand même, oui.
Ouais. Et quand vous faites le DJ, c'est rien à voir. Vous êtes en train de juste
mixer.
Oui,
en plus, moi, personnellement, je n'utilise pas spécialement d'effets. Enfin, il y a quelques effets sur la mixette que j'utilise avec parcimonie, comme ça. Non, ça n'a rien à voir. En fait, ça pourrait être un peu proche, mais c'est des effets qui sont préprogrammés. Tandis que ce que veut dire Dominique, c'est qu'en fait, quand on allumait une machine à l'ancienne... on n'appuyait pas sur piano, je ne sais pas quoi. Il fallait tout de suite essayer de bidouiller pour trouver un son qui sorte au moins. Ouais. Parce que parfois, tu appuyais et il n'y avait aucun son qui sortait.
Exactement, exactement.
Et voilà, c'est à force de bidouiller. Et en fait, ce qui était original avec ça, c'est que personne ne pouvait sortir exactement le même son. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, les nouvelles machines, si je veux avoir le même son que Justice, je vais acheter le même synthé qu'eux et je vais retrouver au bout de 4 boutons, je vais retrouver, ça y est, ils ont utilisé ça, boum.
Alors, on va écouter Justice pour vérifier tout ça. Brian Vision, extrait de leur album Audio Video Disco, sorti en 2011. Mmh. Justice, ton pop, etc. Merci Dominique Perrier, Uncle O, d'être venu ce soir.
C'était
vraiment chouette de parler avec vous de cette époque. Merci aussi à Bernard Fèvre qui était au téléphone. Cosmic Machine sur lundi chez Because. Je vous vraiment vous conseille, c'est fabuleux de replonger dans toute cette musique. Alors, Dominique Perrier, vous continuez à travailler avec le Dominique Perrier Project, dont l'album Tribute to Space Art est sorti l'année dernière chez Pipeline Productions. Vous avez amené Lily Lacombe qui joue le violon, mais qui est très, très timide et qui n'a pas dit bonjour. Mais bon.
C'est une androïde.
Oui, exactement. Et votre présence était très apaisante. Merci d'être venu aussi. Toutes les infos, bien sûr, liées à cette émission sont sur notre site tapezfranceinter.fr. Vous pouvez la réécouter en podcast ou par streaming. La semaine prochaine, on revient sur Something Completely Different, Hygira de Joni Mitchell, sorti en 1975 avec le musicien Michel Benita. Pop etc. a été réalisé par Céline Hila avec Patrick Henry. Rien à voir, je pense, avec Pierre Henry. On vous le fait tout le temps juste sur Patrick. Elle a été préparée par Corinne Valente. La programmation musicale est signée Djoubaka. Très belle nuit sur France Inter. Juste après les infos, La Lune a des oreilles avec Muriel Pérez.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Il y a une heure, vous écoutez France Inter.